VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à toutes. Le Monde aujourd'hui, édition du jeudi 29 juin 2017. En direct de Washington, Idrissa Sidoudia et Jean-Roger Bion. Nous commençons par les titres.
À RDC, libération de 4 artistes peintres après 6 jours de détention pour avoir manifesté à Goma.
Les Africains eux-mêmes doivent assumer le combat contre le terrorisme au Sahel, souligne Alpha Condé, président de l'Union africaine, en visite au Tchad.
Accord de principe à l'ONU sur une réduction de 600 millions de dollars du budget des casques bleus.
Au Mali, des milliers de personnes ont manifesté en faveur du projet controversé de révision de la Constitution.
Au Burkina Faso, des policiers radiés ont manifesté pour réclamer leur réintégration.
Ici aux États-Unis, la mise en œuvre partielle du décret migratoire du président Trump pourrait commencer dès ce matin. Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
En RDC, 4 artistes peintres poursuivis pour avoir manifesté à Goma, dans le nord Kivu, contre les violences dans le centre et l'est du Congo, ont été libérés hier, mercredi, après 6 jours en prison. La précision, John Needham.
Les 4 artistes peintres arrêtés le 22 juin à Goma et détenus à la prison centrale ont été libérés contre paiement des amendes, a déclaré maître Jean-Paul Lumbu Lumbu. Le parquet qui avait retenu contre eux l'infraction de rébellion a pris la décision d'abandonner les poursuites. Lors de leur arrestation la semaine dernière par la police, ces jeunes peintres dont le corps était enduit de peintures rouges portaient sur eux des croix tatouées, kassai et béni. Ils s'étaient allongés sur le trottoir près d'un carrefour très fréquenté de Goma, sans bouger ni parler, les yeux fermés comme des morts, attirant la curiosité de nombreux passants. Ils entendaient ainsi dénoncer les violences dans le kassai et à béni. Le parquet a affirmé qu'il manifestait illégalement et troublait l'ordre public. En septembre 2016, les autorités du Nord Kivu ont interdit toute manifestation à caractère politique avec la fin du mandat du président Joseph Kabila. Cette mesure n'a jamais été levée.
Le président de l'Union africaine, Alpha Condé, en visite au Tchad, s'est prononcé pour une participation accrue des troupes africaines dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Les Africains eux-mêmes doivent assumer ce combat, la présence des casques bleus de la MINUSMA n'ayant pas donné des résultats, a estimé le président guinéen. Son homologue tchadien Idriss Déby Itno avait, lui, menacé dimanche de retirer ses soldats des opérations en Afrique si rien n'est fait pour aider financièrement le Tchad.
Au Mali, quelques 6000 partisans du oui au référendum ont manifesté mercredi à Bamako pour le projet de révision de la Constitution proposé par le président Ibrahim Boubacar Keïta. Ce référendum, qui était prévu pour le 9 juillet, a été reporté sine die il y a une semaine par Ibeka. Depuis la convocation le 7 juin d'un référendum sur cette nouvelle Constitution, l'opposition et des organisations de la société civile se sont mobilisées contre ce texte qui confère trop de pouvoir au chef de l'État, selon ses détracteurs. Ces derniers ont aussi parlé de la situation sécuritaire dans le nord du Mali.
Au Burkina Faso, une centaine d'anciens policiers radiés en 2012 des effectifs de la police du Burkina pour avoir organisé des mutineries ont manifesté mercredi à Ouagadougou pour demander leur réintégration, selon l'AFP. Juste un peu de justice pour les policiers radiés ou encore, au nom de l'unité nationale, les 136 policiers révoqués doivent être réintégrés, pouvait-on lire sur leur banderole.
Un accord de principe a été obtenu à l'ONU pour réduire de 600 millions de dollars le budget des casques bleus suite à la demande des États-Unis de baisser ses contributions. Abdourahmane Dia.
Cet accord doit être validé par l'Assemblée générale de l'ONU. L'an prochain, les Nations unies vont dépenser 7,3 milliards de dollars pour ces opérations de maintien de la paix. Après d'intenses négociations, une baisse de 600 millions de dollars, soit 7,2% du budget des casques bleus, a été consentie. Les États-Unis, premier contributeur, voulaient réduire la facture d'$1 milliard, soit une baisse de près de 13 %. Les missions onusiennes les plus touchées seront celles au Darfour et en République démocratique du Congo, qui sont les plus coûteuses, avec plus d'$1 milliard chacune. Le Conseil de sécurité votera cette semaine sur la mission de l'ONU au Mali, qui devrait cependant ne pas subir de coupes sévères. Washington finance 28,5 % du budget des opérations de maintien de la paix et 22 % du budget de fonctionnement de l'ONU.
7 membres de la mission de l'ONU en Libye ont été libérés sains et saufs après avoir été brièvement enlevés par un groupe armé à l'ouest de Tripoli, a indiqué à l'AFP le chef de la garde présidentielle à Tripoli. Depuis la chute du régime de Muammar al-Kadhafi en 2011, les représentations diplomatiques et les diplomates en Libye sont régulièrement la cible d'attaques et d'enlèvements.
Migration vers l'Europe, l'Italie menace de bloquer l'accès de ses ports aux bateaux transportant des migrants secourus en Méditerranée et battant pavillon étranger. Morgan Guiriec.
Les médias italiens rapportent que les autorités ont remis une lettre à l'Union européenne pour expliquer que la situation a atteint la limite du supportable. Une source proche du gouvernement a dit à l'AFP « on ne peut plus continuer comme ça ». Plus de 10 000 migrants ont été secourus entre dimanche et mardi au large de la Libye. Les gardes-côtes italiens coordonnent ces opérations de sauvetage, mais de nombreux bateaux étrangers, y compris plusieurs affrétés par des ONG, y participent. Les migrants sont ensuite hébergés dans des centres d'accueil saturés. L'Italie se plaint depuis des années d'être livrée à elle-même face à l'afflux massif de migrants en provenance de Libye et appelle à davantage de solidarité de la part de ses partenaires européens.
Le pape François a investi hier 5 nouveaux cardinaux qu'il a nommés il y a un mois. Le Mali, le Laos, le Salvador et la Suède ont eu les premiers cardinaux de leur histoire. Le cinquième est espagnol. La cérémonie a eu lieu hier dans la basilique Saint-Pierre. Ils ont reçu leur barrette pourpre et la coiffe ecclésiastique, Eric Manirakiza.
Le pape a rappelé dans une rituelle formule latine que la couleur rouge de leur barrette signifie qu'ils doivent être courageux jusqu'à verser leur sang pour la croissance de la foi chrétienne. Il a souligné que les nouveaux cardinaux n'étaient pas appelés à devenir des princes de l'Église, mais des serviteurs attentifs des innocents qui souffrent et meurent à cause des guerres et du terrorisme ou encore des camps de réfugiés. Il s'agit d'une première historique pour la Scandinavie et la Suède, petit pays de tradition luthérienne, aujourd'hui l'un des plus sécularisés d'Europe, mais aussi pour le Mali, pays à majorité musulmane, avec la nomination du cardinal Jean Zerbo. Le Laos, communiste et bouddhiste, le petit Salvador, des pays où les catholiques sont ultra minoritaires, font leur entrée dans ce cercle restreint du Vatican. Pour l'évêque de Stockholm, Anders Arbolius, ces nominations confirment l'attention que le souverain pontife porte aux communautés catholiques les plus petites et les plus reculées en Afrique, en Asie, mais aussi en Europe.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, les services d'immigration attendent des instructions sur l'application du décret migratoire du président Donald Trump après que la Cour suprême eut rétabli partiellement ce décret. Sa mise en œuvre pourrait commencer dès ce matin.
Washington va renforcer les mesures de sécurité pour les vols à destination des États-Unis, mais sans généraliser pour le moment l'interdiction des ordinateurs portables à bord des avions. C'est ce qu'a annoncé hier le secrétaire à la sécurité intérieure, John Kelly. Il a ajouté que ces nouvelles mesures, visibles ou invisibles, seront mises en œuvre graduellement au cours des prochains mois.
L'ONU a estimé mercredi que près de 100 000 civils étaient pris au piège à Raqqa, principal bastion du groupe État islamique en Syrie, que les forces démocratiques syriennes, les FDS anti-djihadistes, tentent de reprendre. Selon des données recueillies par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, au moins 173 civils, il s'agit ici d'une estimation prudente, et le nombre réel pourrait être bien plus élevé, ont été tués dans les combats depuis le 1er juin, a-t-il indiqué dans un communiqué.
L'armée israélienne a annoncé avoir frappé à nouveau des positions du régime syrien mercredi soir en réponse à des tirs au mortier sur le plateau du Golan occupé, le troisième incident du genre depuis samedi. Une porte-parole a déclaré à l'AFP qu'un tir au mortier avait frappé une zone située dans la partie du plateau contrôlée par Israël. Les forces ont répliqué et ciblé la position de l'armée syrienne qui avait tiré au mortier, a-t-elle ajouté.
La chancelière allemande Angela Merkel réunit aujourd'hui à Berlin plusieurs autres dirigeants européens pour tenter de constituer un front uni avant le sommet du G20 en Allemagne. Un sommet qui s'annonce houleux, dit-on, avec le président américain Donald Trump. La pression pesant sur les Européens pour qu'ils prennent davantage leur destin en main se dessine depuis plusieurs années et cela s'est encore renforcé avec le nouveau chef de l'État américain, a indiqué cette semaine Mme Merkel dans une interview.
Voilà pour le journal. La Minute Éco. Jacques Aristide.
Afreximbank, la banque africaine d'import-export, compte mobiliser 10 milliards de dollars sur 5 ans pour promouvoir le commerce intra-africain, selon le quotidien ivoirien Fraternité Matin. Afreximbank tient depuis hier à Kigali, la capitale rwandaise, sa 24e assemblée générale. D'après le journal, le président de l'institution, Bénédicte Mara, veut également intégrer 16 millions d'Africains de la diaspora dans sa stratégie afin d'attirer vers le continent les 63 milliards de dollars qu'il génère. Les économies africaines veulent faire du commerce intra-africain un pilier du développement et ainsi réduire la dépendance du continent à ses ressources naturelles. En Côte d'Ivoire, l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan sera doté de 11 nouveaux parkings avions d'ici à 2019, s'ajoutant aux 15 présentement. Ces travaux de modernisation au coût de 40 milliards de francs CFA démarrent dans le courant de cette année. Le géant des mines AngloGold Ashanti, troisième producteur mondial d'or, compte supprimer 8500 emplois en Afrique du Sud dans le cadre d'une stratégie de redressement et de réduction de ses pertes. L'entreprise emploie 28 000 salariés, le projet vivement dénoncé par les syndicats. D'après le groupe, les réserves de minerais sud-africaines sont quasiment épuisées alors que certaines mines anciennes ne sont plus rentables.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Qui de l'Allemagne ou du Mexique rejoindra le Chili en finale de la Coupe des Confédérations?
On le saura ce soir dans la deuxième demi-finale, Idrissa, toujours présente dans le dernier carré depuis 2006 dans les compétitions internationales. La Mannschaft part favorite. Mais attention, le tri a souvent brillé en compétition des confédérations avec un trophée remporté en 1999. L'Allemagne, qui a été très réaliste dans ses rencontres, va faire face à une équipe mexicaine qui base son jeu sur la possession et qui a un redoutable buteur avec Chicharito. Une belle opposition à suivre donc ce soir à partir de 18h temps universel. On rappelle qu'hier, le Chili est venu à bout du Portugal au tir au but grâce à un excellent Claudio Bravo, trois arrêts consécutifs. Le score était de 0-0 à l'issue du temps réglementaire.
C'est ce soir ou jamais pour le Malawi et l'île Maurice dans la Coupe COSAFA.
Oui, Malawi, Angola et Tanzanie-Maurice. Deux matchs qui se jouent en simultané pour la dernière journée des phases de poule. Le Malawi et Maurice, dernier du groupe A avec un point chacun, doivent donc gagner s'ils veulent avoir une chance de continuer la compétition. L'Angola et la Tanzanie sont en bonne position avec 4 points chacun. Rappelons qu'hier, dans la deuxième sortie du groupe B, le Mozambique a pris le dessus sur les Seychelles 2-1. Madagascar et le Zimbabwe se sont neutralisés 0-0.
Quelle nouvelle de transfert pour terminer?
Oui, et l'attaquant international guinéen Aboubakar Demba Camara quitte le Paris FC pour rejoindre le club chypriote de l'Anarthosis. Le Sénégalais Famara Diendou, lui, file à Brussels en deuxième division anglaise pour 4 saisons. Le montant du transfert s'élève à 5,3 millions de livres. Brussels réalise ainsi le plus gros transfert de son histoire. Âgé de 24 ans, Diédou a inscrit 9 buts avec Angers lors de la saison 2016-2017.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM, Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.
Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. À Lubumbashi, en République démocratique du Congo, plusieurs femmes et adolescentes font l'objet de viols. Face à l'inaction de la justice et de la communauté locale, une femme a décidé, elle, de parler de son calvaire, en espérant que son histoire personnelle aidera. De Lubumbashi, notre correspondant Narval Mabila.
Protégées par la loi face aux violences, les femmes et les jeunes filles continuent à subir les viols. Elles crient dans un silence amer à qui peut les entendre, mais Madame Bora a décidé de prendre la parole, là où les autres femmes préfèrent se taire.
C'est vrai, on est, mais pas au point de frapper, de violer. J'ai vécu ça, c'était pas facile, pas du tout. On m'a conseillé autant de fois de porter plainte, mais j'ai pas voulu, je suis partie. J'ai pris une décision, c'était pas facile. Quand on se retrouve sans rien au début, c'est difficile. Un autre mode de vie, tout doit changer, prendre soin des enfants, c'est pas facile. En fait, mes propres enfants ne supportaient plus l'homme avec qui j'étais. Mon fils, il m'a encouragé à partir, ma fille aussi. Ils m'ont dit un jour, écoute maman, si tu n'es pas là, qui prendra soin de nous? C'est pas toujours facile, mais faut savoir prendre des décisions.
Officiellement, les femmes et les enfants sont protégés par la justice et les ONG, et la réalité du terrain est tout autre.
La plupart des hommes qui maltraitent leurs femmes, ce sont des personnes influentes, ce sont des personnes qui connaissent toutes les rouages de la justice. Ils sont pris à courant, à moins que tu tombes sur quelqu'un de bien, quelqu'un qui veut vraiment te faire entendre, qui veut vraiment que la justice soit faite, mais la plupart du temps, si notre justice est vraiment décevante, c'est vraiment décevant. Tu portes plainte, mais à la longue, tu te rends compte que la personne doit se retrouver derrière les barreaux, mais tu la vois. Moi, personnellement, je suis harcelée, je me bats pour la garde de mes enfants, mais rien avance. On te promet, mais ils réalisent pas. C'est décevant, vraiment décevant. Ici, il y a la protection de l'enfant et de la femme et de l'enfant, mais ils ne foutent rien. Ils sont là quand il y a corruption, quand tu portes plainte. Il suffit d'un peu d'argent pour que ta plainte la place quelque part dans un bureau et c'est fini. Il faut oublier, il faut être forte. Moi, là, je me bats juste pour la garde de mes enfants.
Dans la plupart des cas, les femmes et les jeunes filles sont laissées à leur triste sort face au viol et qui font les ONG. Monsieur Moulumba, directeur de l'ONG Justice SBL, tente de nous expliquer.
De violations de droits de l'homme ou de violences, des femmes qui sont violentées par leur mari dans leur ménage, nous pouvons leur apporter des conseils, nous pouvons leur assister judiciairement si le besoin se fait sentir. L'organisation met sur le coup des avocats qui vont suivre le dossier déjà au niveau de la police jusqu'au niveau du tribunal. Et si vous constatez que certains dossiers n'évoluent pas, c'est simplement parce que certaines femmes qui sont violentées ont trouvé mieux de faire le suivi de leur dossier par elles-mêmes. Et cela ne peut pas permettre à ce que le dossier puisse évoluer. Le fait pour ces femmes de se faire accompagner par un avocat ou un défenseur judiciaire, quelqu'un qui est du domaine, ça permet à ce que le travail puisse aller vraiment de l'avant.
Entre-temps, les calvaires de la femme et de la jeune fille est loin de se terminer.
Ça déshonore vraiment les familles africaines, que nos enfants de 14, 15, 16, 17, 18, voire 20 ans, être menés en bateau par le grand monsieur. Et que la justice ferme les yeux sur ça. C'est nous parents qui amenons nos enfants à l'abattoir. On amène nos enfants à l'abattoir. C'est pas facile.
Lubumbashi, Narval Mabila, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en RDC, à Lubumbashi évidemment sur le 102.8 FM.
Le département d'État américain a publié cette semaine son rapport 2017 sur le trafic d'êtres humains. Présenté par le secrétaire d'État Rex Tillerson, ce rapport dresse une liste noire des pays qui ne combattent pas suffisamment ce fléau. 23 pays figurent sur cette liste, dont des nations africaines comme la RDC, le Congo, la Guinée ou encore le Mali. D'après le département d'État américain, pas moins de 20 millions de personnes sont victimes du trafic d'êtres humains dans le monde. John Lindon a joint Brian Newbert, directeur régional Afrique, en charge des médias au département d'État américain.
Ce qui est l'essentiel, c'est que nous étudions les efforts, les efforts minimums dans le cadre de prévention, protection et poursuite dans cette question de traite des êtres humains. Il y a dans certains instants, certains pays du progrès, mais il faut dire également il y a d'autres pays, donc nous voulons encourager encore du progrès, même au niveau 1. Ce n'est que le minimum d'efforts pour ce problème.
Alors, quand vous dites trafic d'êtres humains, ça renvoie à quoi?
Donc, c'est une question d'exploitation. C'est une question de si nous parlons de traite des êtres humains, il y a un élément criminel où les êtres humains sont mis dans une situation d'esclavage moderne. Et donc, ces gens-là, ça pourrait être exploitation sexuelle, ça pourrait être des ouvriers dans un contexte forcé. Malheureusement, il y a plusieurs domaines dans le monde. Il y a au moins 20 millions de victimes dans ces questions, dans plusieurs contextes. Mais à la base, c'est une question d'exploitation. Donc, il faut poursuivre les criminels qui gère ces entreprises d'exploitation. Puis il faut, bien sûr, comme je disais, protéger les victimes. Et c'est une question d'éducation, c'est une question de juridique, également de faire un effort pour la prévention également en Afrique.
Alors justement, le secrétaire d'État Rex Tillerson a évoqué le chiffre de 20 millions de personnes qui sont des victimes de trafic humain. Comment aider ces gens-là à sortir de leur réserve, à parler? Qu'est-ce qu'il faut faire?
Ça, cette question est absolument essentielle. Ces victimes, ils ne savent pas, dans n'importe quel pays, ça pourrait être en Afrique, ça pourrait être en Amérique du Nord, en Europe, ils ne savent pas le droit, ils ne savent pas qu'ils pourraient être sauvés, ils pourraient être protégés. Donc c'est vraiment une question d'éducation, de vulgariser ces valeurs et ces éléments pour essayer de vraiment protéger ces victimes.
C'était Brian Newbert, directeur régional Afrique, chargé des médias au département d'État américain.
Dans Washington Forum cette semaine, la situation politique et sécuritaire au Mali, report du référendum constitutionnel initialement prévu le 9 juillet, opposition et société civile qui descendent dans la rue face à une fronde au sein même de la mouvance présidentielle. Quel est le but de ce référendum si le nord du pays ne peut pas y participer? Multiplication des attentats, où en est la lutte contre les djihadistes? Quelle réunification du pays dans ces conditions? Laissez-nous vos commentaires sur la page Facebook de VOA. Et je vous donne rendez-vous ce jeudi à 19h, temps universel, avec Tatiana Mosso et ses invités.
En Côte d'Ivoire, le gouvernement réaffirme la gratuité des soins pour le paludisme simple, une mesure entrée en vigueur depuis 2012, mais toujours pas appliquée dans plusieurs centres de santé. D'Abidjan, les explications de Georges Ibrahim Tunkara.
En Côte d'Ivoire, le paludisme reste l'une des principales causes de mortalité. En 2014, ce sont 4077 personnes qui en sont mortes et 3075 en 2016. La tendance est à la baisse selon le PNLP, le Programme national de lutte contre le paludisme. Pour le directeur coordonnateur du PNLP, il faut maintenir le cap, d'où la mesure portant gratuité des soins contre cette maladie. Docteur Antoine Tanomea.
Pour permettre à toute la population, toutes les personnes vulnérables, tous ceux qui n'ont pas les moyens d'avoir accès facilement au traitement. C'est pour ça que l'État de Côte d'Ivoire a rendu gratuit la prise en charge contre le paludisme. Parce que le paludisme est le premier motif de consultation en Côte d'Ivoire.
Si officiellement le traitement du paludisme simple est gratuit, la réalité est cependant tout autre dans de nombreux centres de santé. Plusieurs malades, comme ici dans la commune d'Abobo, affirment avoir payé les soins liés à cette maladie. Kadiatou Traoré est nourrice.
C'est mon petit bébé qui est malade là, dont on l'a amené ce matin. En fait, on n'a pas payé le ticket, mais on a donné donné l'ordonnance, on a acheté les seringues là, on a fait une injection. C'est mon mari même que je cherche, il a sorti l'ordonnance, donc c'est venu voici, il est au dehors ici.
Il a pas encore mis 2 mois.
Il a 1 mois.
Dame Kwadjo Yvette vient de consulter un médecin.
Bon, il m'a dit que c'est le palu. Il m'a presque des ordonnances à acheter.
Donc vous n'avez pas donné de médicaments?
Non. Pas de médicaments.
Donc vous allez tout payer, hein?
Bon, je vais voir la maison et aller voir monsieur. Parce que je ne suis pas venu assez d'argent. Non, jusqu'à 2 ordonnances. Aucun médicament.
Une autre dame rencontrée cette fois à Yopougon, autre quartier d'Abidjan, dit ignorer l'existence de la mesure sur la gratuité des soins du paludisme simple.
Je suis allée plusieurs fois à l'hôpital et j'ai toujours payé les médicaments. Je ne sais pas pourquoi on dit que c'est gratuit. C'est écrit nulle part. Je ne sais pas si c'est écrit là-bas même. Même quand on devait prendre les médicaments à l'hôpital, c'était toujours payant.
Les médecins que nous avons approchés n'ont pas voulu réagir à ce débat, préférant nous renvoyer à leur hiérarchie. Dr Antoine Tanomea, directeur coordonnateur du programme national de lutte contre le paludisme.
Il y a d'autres personnes qui l'appliquent et on reçoit des sons divers qui disent que soit j'ai payé ou je n'ai pas payé. Il y a une confusion. Le médicament du paludisme est gratuit. Ce que nous demandons aujourd'hui aussi à nos collègues, les prescripteurs, les médecins, les infirmiers, c'est qu'ils font maintenant des ordonnances différentes. Qu'ils puissent faire une ordonnance typiquement pour le traitement du paludisme simple et une autre ordonnance aussi pour autres affections qui sont liées au paludisme, pour ne pas qu'il y ait cette confusion.
On le voit donc, la gratuité du traitement du paludisme simple proclamée dans le discours officiel est loin d'être une réalité dans de nombreux centres de santé. Georges Brentoun-Kara, Abidjan, VOA Afrique.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, VOA Afrique, 24h sur 24.
La population américaine est en voie de vieillissement et de diversification selon le dernier recensement. Cette mutation est plus évidente à Houston, ville du Texas, qui connaît une augmentation rapide de ses communautés minoritaires. Reportage de Ramon Taylor, repris ici par Morgan Guériec.
Autrefois connue pour sa population majoritairement blanche et hispanique, Houston revendique aujourd'hui le titre de la ville à la démographie la plus diversifiée des États-Unis. Pour beaucoup d'habitants de cette métropole autrefois connue comme un bastion des conservateurs américains, c'est une source de fierté, explique Nikki Vasquez, une habitante.
Je suis blanche et mon mari est hispanique. Nous avons 2 beaux enfants métis. Et je pense que c'est accepté et apprécié.
Après les élections de 2016, le maire démocrate de Houston l'a proclamé ville d'accueil des immigrants et des réfugiés. Le pasteur Li Xia, d'origine chinoise, est arrivé à Houston à 7 ans. Selon lui, cette ville encerclée par la Bible Belt, la ceinture biblique, c'est-à-dire des zones peuplées de conservateurs, est devenue organiquement accueillante ces dernières années.
La Bible dit d'accueillir les immigrants, les étrangers, tout comme les réfugiés. C'est une seconde nature pour les Houstoniens. Je pense que du fait probablement de notre diversité, nous sommes plus accueillants que toute autre ville du Texas.
Le dernier recensement américain révèle un vieillissement de la population blanche à travers le pays et le comté de Harris, qui englobe Houston, n'échappe pas à la règle. Stephen Kleinberg est chercheur à l'Institut pour la recherche urbaine.
Les blancs de 63 ans ne feront pas beaucoup de bébés et vous pouvez me croire. Aucune force au monde n'empêchera Houston, le Texas ou les États-Unis d'être peuplé d'un peu plus d'Africains américains, d'Asiatiques, de Latinos et d'un peu moins de Blancs à mesure que le 21e siècle avance.
Cette évolution pèse sur la population blanche vieillissante et moins qualifiée qui voit leurs emplois disparaître. La nouvelle génération de Houstoniens semble transcender les divisions raciales pour accepter la diversité. Toutefois, dans les zones reculées et même dans certains secteurs urbains, il y a moins de brassage, ce qui pose des risques de discrimination raciale.
Hello, hello, I'm your English host. Je suis votre présentatrice pour l'anglais, Michelle Joseph, ici au micro. Voulez-vous mieux parler l'anglais? C'est fait. Retrouvez-moi tous les soirs à partir de 21h, temps universel, sur VOA Afrique et sur notre site internet à www.voaafrique.com. Cliquez sur Apprenez l'anglais pour retrouver les leçons de tous les jours. Et les week-ends sur ondes courtes, le samedi et le dimanche à 20h TU. pour mieux parler l'anglais, to speak better English, ne ratez pas English USA sur VOA Afrique.
Le monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci à Jean-Roger Bion pour le suivi de l'actualité et Sims Loumami pour la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.